Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Avant de retrouver mon invité de ce soir, traditionnel petit détour téléphonique avec Philippe Fosseux, avec lequel nous allons évoquer le prochain concert de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Dominique.
Alors on renouvelle les grands concerts de piano solo avec un jeune artiste de 30 ans, Jonathan Fournel.
Tout à fait.
Ça se passe
Jonathan Fournel, donc, qui est un régional de l'étape, si
tout
je
à
peux
fait,
dire,
ouais.
Puisque il est sarrebourgeois de naissance et bien qu'il ne réside plus à Sarrebourg maintenant, mais c'est un garçon effectivement assez extraordinaire, très beau pianiste, une trentaine d'années, et je dois dire qu'on a surtout en tête, en ce qui le concerne, le fait qu'il ait été en 2021 le premier prix du concours Reine-Élisabeth de piano.
Alors,
qui est un concours
oui.
très, très réputé.
Oui, alors je disais, ce qui m'a interpellé quand j'ai regardé un petit peu son curriculum, c'est que, alors évidemment, on parle de ce concours-là, et puis il cite quand même les récompenses qu'il a eues au conservatoire de Sarreguemines. Entre 2000 et 2001, il a eu un bon résultat en premier cycle. Je trouve ça assez extraordinaire de faire le lien entre le début...
Entre les
puis...
deux, oui, absolument. Bon, faut dire, bon, c'est un garçon qui a eu d'excellents professeurs, hein, si je
oui.
puis dire, notamment à Paris, puisqu'il a quand même travaillé avec Bruno Rigouteau, Brigitte Engerer, Claire Désert, Michel D'Alberto, que nous recevrons au mois de mai. Ce sont quatre grands morceaux et grands pianistes duquel il a dû tirer un maximum.
Oui, oui. Puis avant, il avait eu Robert Leonardi, Jean Micaud.
Enfin, Robert Leonardi,
voilà,
et après Louis Lortie.
Voilà, donc du beau monde, du beau monde.
Du beau monde, on va dire, oui.
Alors, ce programme.
Alors, le programme, c'est un programme qui est assez riche et assez long. Hein. Il nous a concocté un programme d'envergure. Alors, on commencera avec le concerto italien de Bach, hein, concerto à la mode italienne, hein, comme on disait à l'époque, quand on dit italien, c'est pas vraiment qu'il soit italien, mais c'était la grande époque de la concurrence Vivaldi-Bach, quoi,
oui, enfin, oui.
École italienne, école allemande. Suivront trois intermezzi de Johannes Brahms, roi du piano, bien évidemment.
Oui, 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 oui.
On aura ensuite quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qui est relativement peu joué, qui sont les variations sur un thème polonais de Karol Szymanowski.
D'accord.
Hein, c'est un compositeur qu'on entend, mais pas bien souvent, c'est vrai. Pas très souvent, et je pense que ces variations sont tout à fait intéressantes. Et alors on terminera par le monument de Liszt, la sonate en si mineur.
Ah oui.
Une sonate en trois mouvements enchaînés, 35 minutes d'une magnifique, un magnifique art pianistique.
D'accord, très bien. On dit beaucoup de bien de Jonathan Fournel hein, dans les revues spécialisées.
Oui,
hein.
On en dit énormément de bien et à juste titre, je pense. J'ai écouté pas mal de choses de ce qu'il a fait. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Alors, certains le comparent à Alexandre Kantorov, mais je trouve que ce sont vraiment deux manières de jouer très différentes,
oui.
Deux personnalités assez différentes. Mais il a travaillé avec Philippe Cassard, et Philippe Cassard, si vous me permettez de citer Philippe Cassard, il dit de lui poésie, intelligence, intensité, un beau jeu naturel, franc comme de l'or,
oui.
Des arabesques sculptées, jamais précipitées, du chant, du rêve.
Oui.
Jonathan Fournel, c'est la classe, l'anti-concours par excellence.
D'accord.
C'est amusant quand on sait qu'il a eu le prix Reine-Élisabeth.
Alors moi, j'ai ma petite citation, si vous voulez bien.
Ah,
c'est
oui.
Une citation d'Alain Lompèche,
oui.
Qui dit que, entre autres, Jonathan Fournel est un tigre, il en a la puissance, la majesté, la souplesse, la rapidité, la férocité et l'élégance. Voilà, je
tout
trouve
à
que
fait.
Là, entre votre citation et la mienne, on a fait le tour un petit peu de la personnalité de Jonathan Fournel.
Tout à fait, mais je crois que ça va être un très très beau concert.
Alors c'est lundi 24 à 20h, salle Poirel.
À 20h, salle Poirel.
Il y a encore des places en haut, parce que je suppose qu'en bas, tout est pris.
Il y a encore quelques places en haut. En bas, tout est pris, comme d'habitude.
Ben
peut-être,
oui.
peut-être, euh, peut-être j'ai pu sauvegarder quelques places, mais il va falloir aller très vite.
D'accord, très bien. Eh bien, Philippe, merci. On se retrouve lundi avec plaisir, Salle Poirel. Bonne soirée à vous et à bientôt.
Bonne soirée à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, tout comme Jonathan Fournel, mon invité est mosellan. Il est organiste liturgique, enseignant à l'Université de Lorraine ainsi qu'au Conservatoire de Thionville, compositeur, musicologue, organiste, concertiste. Voilà déjà de quoi copieusement remplir une vie. Mais en plus, il est, et c'est pour ça que sa présence m'intéresse ce soir, un harmoniumiste. Bonsoir Olivier Schmitt.
Bonsoir Dominique.
Alors que de casquettes, je suppose que toutes ces casquettes vous plaisent de la même manière.
Heureusement. Heureusement, oui, ça fait beaucoup de choses. Mais la musique, c'est quelque chose de pluriel et je crois que c'est bien dans la vie d'un musicien d'avoir comme ça plein d'horizons à explorer.
Tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours musical.
Alors, c'est un parcours, on va dire, très classique au départ. Hein. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans parce que mes parents m'ont dit que je devais faire du piano.
Ouais.
J'ai fait ça sans trop de conviction jusqu'à l'adolescence. Là, j'ai commencé à le travailler un petit peu plus. Et je dirais que c'est par hasard que je me suis mis à l'orgue, puisque je m'étais jamais rendu dans l'église de la ville dans laquelle j'habitais. Et comme ça, sur un coup de tête, j'y suis passé. Et il s'avère que je suis tombé sur le président de la fabrique qui cherchait un organiste. J'ai essayé l'orgue et là, il y a eu un déclic. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou non, en définitive, mais il y a eu un déclic.
Et c'était où ?
À Moyeuvre-Grande.
D'accord. Alors après, une fois que c'était lancé, c'était lancé.
Oui, au grand dam de mes parents, voilà, qui voyaient d'un œil un petit peu inquiet, comme ça l'adolescent que j'étais se consacrait de manière très exclusive à la musique, donc ils m'ont imposé de continuer quand même très sérieusement mes études, au moins jusqu'au bac, puis après, voilà, j'ai commencé à m'intéresser davantage à des débouchés, donc j'ai... En plus du conservatoire de Thionville, dans lequel je prenais déjà des cours avec mademoiselle Raphaël Garraud de la Barre.
Bien sûr, qu'on salue, oui, si elle nous écoute.
Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la musicologie. Donc là, je suis rentré la même année donc, à la faculté de musicologie, et en troisième cycle long, comme on disait à l'époque, conservatoire de Metz, en orgue.
Donc c'était les classes dans lesquelles on préparait le prix du conservatoire.
C'est ça.
C'est encore plus ancien que le troisième cycle long, le prix de conservatoire.
Oui. Donc voilà, une fois ce premier prix, donc à l'époque c'était même médaille d'or.
Médaille, oui, oui.
Voilà, ensuite il y a eu un prix de perfectionnement, il y a eu un prix supérieur interrégional, parallèlement encore la composition, les études de musicologie qui se sont poursuivies plus loin que ce que je pensais, puisque j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout avec un doctorat à la Sorbonne.
Ouais. Sur quoi ?
C'est très original, la facture d'orgue et l'histoire du répertoire pour orgue et orchestre en France et en Alsace-Moselle entre 1840 et 1918.
Ah, c'est bien spécialisé ça.
Ah bah, on est toujours des hyper spécialistes de petits domaines comme ça, de petits sujets.
D'accord, et puis alors après ?
Alors après... Le post-doctorat était un petit peu chaotique parce que je dois avouer qu'on était relativement peu suivi à cette époque-là au niveau de la Sorbonne. Donc une fois que j'ai soutenu ma thèse, j'ai été un peu lâché dans la nature. Donc j'ai enseigné dans des écoles de musique et conservatoires dans la région jusqu'au moment où une école d'orgue diocésaine a été créée à Metz et qu'on a cherché un deuxième poste, puisqu'il y avait déjà un poste qui était en place, qui était attribué à mon grand ami, au sens propre et figuré, Frédéric Mayer.
Qu'on salue également.
Voilà. Donc, il cherchait un directeur adjoint. Donc là, je suis rentré dans cette nouvelle institution musicale et j'y ai enseigné pendant 8 ans et demi avant de prendre mes affaires et de me déplacer au conservatoire de Thionville.
C'est quand même rare qu'un diocèse mette deux postes à disposition pour la formation des musiciens et des organistes liturgiques.
Je dirais même qu'il y en avait quatre, puisqu'il y en avait deux autres qui étaient consacrés au chant choral.
D'accord.
Donc il y avait du travail, il y en aurait toujours, mais je crois que l'école diocésaine d'orgue actuellement est un petit peu en stand-by.
Mmh, d'accord. Donc après, Thionville.
Voilà, Thionville, il y avait un professeur qui était en place, donc Jean Bizot, qui est organiste à Saint-Sébastien-de-Nancy.
Qu'on salue également.
Voilà, qui était en âge de prendre sa retraite. Donc, il a pris sa retraite et on cherchait un nouveau professeur. Donc là, j'ai été contacté par François Narboni, qui a été directeur de ce conservatoire et qui maintenant est conseiller aux études, et qui m'a proposé donc, de passer le recrutement. Donc, on était plusieurs candidats. Il s'avère que j'ai eu de la chance et j'ai été pris.
D'accord. Et puis, quoi d'autre?
C'est déjà c'est bien, mal, hein, donc c'est tout à fait. Il y avait une classe qui était à reconstruire, hein, à développer aussi. Alors, ce qui est intéressant à Thionville, c'est qu'on est quand même bien loti, parce qu'on a un très beau conservatoire avec une très belle salle de concert qui s'appelle l'Adagio, et on dispose à Thionville même de l'église Saint-Maximin pour les cours, où il y a un grand orgue Kern de 1969 qui a été beaucoup enregistré, qui est un très très bel instrument, mais... J'ai eu aussi la possibilité d'ouvrir la classe à l'orgue dont je suis titulaire, donc à Saint-Martin de Hayange, qui est un grand orgue symphonique de la fin du XIXe siècle, qui est le frère jumeau de celui de Saint-Sébastien de Nancy, donc un orgue d'Alstein et Herper, avec trois claviers, pédaliers, 53 jeux, vraiment une belle bête. Et donc ça permettait d'ouvrir un petit peu sur le plan esthétique à d'autres musiques. Et maintenant, développement tout récent de la classe d'orgue.
Ça date de la semaine dernière.
Ça, du début de cette semaine.
De même,
voilà. Je suis allé avec un collègue de la municipalité chercher un instrument d'étude dans le Sauternay.
Oui.
Donc une région bien sympathique. Mais malheureusement, on n'a pas pu trop s'arrêter pour profiter des produits locaux. Valait peut-être mieux, il y avait de la route. Donc nous sommes allés récupérer un petit orgue d'étude, ce qu'on appelle un baby unit, donc un instrument de la firme Gonzalez. Qui permet, avec deux séries de tuyaux, d'avoir une multitude de jeux. Et donc, ça nous permettra d'avoir la possibilité de travailler au chaud en hiver.
Tout à fait.
Ça donnera aussi un instrument de travail pour les élèves en dehors des cours. Et je remercie vraiment la direction du conservatoire et la municipalité d'avoir suivi ce projet, parce que ça va permettre de développer encore la classe d'orgue.
Bien, bon, on va s'arrêter un petit peu, écouter un peu de musique. Alors, comme le conservatoire de Metz, dont vous êtes issu, entre autres, porte le nom de Gabriel Pierné, je vous propose d'écouter un peu de la musique de ce Messin d'origine.
Thank you.
C'était le ballet Cydalise et le Chèvre-Pied, acte 2, entrée des danseurs de la Comédie-Ballet. C'est de la musique de Gabriel Pierné. L'Orchestre Philharmonique de Luxembourg et le Collège Vocal de la Cathédrale de Metz étaient dirigés par David Chalonne. Le Collège Vocal de la Cathédrale étant lui dirigé par Christophe Bergossi. Alors, il est vrai que savoir faire beaucoup de choses, on le disait tout à l'heure, ça élargit le spectre des activités. On va peut-être parler un petit peu donc de toutes les formes d'enseignement que vous pratiquez, auprès des petits, auprès des grands, des anciens, des jeunes.
Ben, on peut commencer par l'université,
Commençons par l'université.
Alors, depuis quelques années maintenant, j'enseigne en première année de master dans un cours, donc c'est un cours magistral, qui s'intitule « Institutions musicales et patrimoine ».
Ça ne rigole pas.
Ah non, c'est très sérieux. Hein. Donc, c'est la maîtrise, enfin, c'est oui, anciennement c'est ce qu'on appelait la maîtrise, donc maintenant Master 1. Donc c'est un cours qui explique un petit peu comment se sont créées les institutions musicales, parce que c'est pas quelque chose qui est aussi évident que ça. Pourquoi on a créé un conservatoire? Pourquoi on a commencé à enseigner la musique? Pour quels besoins? Comment ça s'est constitué? Quels étaient les problèmes qu'on a rencontrés? Premier, la notation musicale. Parce que c'était un enseignement qui se faisait de manière orale, sauf que quand on avait un petit répertoire, alors qui était essentiellement le répertoire liturgique, au tout début de la chrétienté, bon, ça allait, mais au bout de 500 ou 600 ans d'existence, on avait un répertoire extrêmement important, et c'était très problématique de pouvoir l'enseigner, ou même de le retenir.
Ouais.
Donc voilà, on explique ces choses-là, comment on a créé la notation musicale, tout ce que ça a induit sur le plan patrimonial, la constitution après de la polyphonie musicale, la notation, la constitution des bibliothèques musicales, des instruments de musique qui sont associés à tout ça. Bon, puis on progresse comme ça au fur et à mesure de l'histoire et on aborde le conservatoire, l'opéra, la recherche musicale, la lutherie. C'est quelque chose d'extrêmement varié et je trouve ça extrêmement intéressant.
Et vous avez qui comme genre de public ?
Alors, depuis la réforme de l'université, c'est une matière d'ouverture culturelle. Donc j'ai des étudiants musicologues, mais j'ai des gens qui viennent d'art du spectacle, de langue, parfois même des gens qui ne sont pas du tout musiciens ou pas du tout, a priori, dans la filière artistique.
Oui, ça ne pose pas de problème.
Ben, on essaie d'être très pédagogue, hein, on essaye de...
C'est une bonne école de pédagogie, ça.
C'est vraiment un défi, hein, de réussir à expliquer des choses aussi pointues. Mais je crois qu'a priori, ça marche pas trop mal.
Bon, d'accord. Alors, après l'université... vous faites d'autres choses aussi à l'université.
Alors, cette année, je remplace un collègue pour ce qui est des cours d'harmonie au clavier en licence 2 et 3.
Mmh.
Donc là aussi, c'est une école de la pédagogie et de la patience parce que beaucoup des étudiants, s'ils sont musiciens, ne sont pas forcément claviéristes.
Ouais.
Donc, il faut réussir à leur donner des clés pour qu'ils se débrouillent un petit peu en essayant de se mettre dans la situation du professeur qui sera en face d'une classe et qui devra accompagner au piano, même s'il ne pratique pas forcément le piano.
Oui, oui, je vous souhaite bien du courage. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et
c'est vrai que... c'est parfois difficile.
Ça peut être difficile. Bien, alors, si on passe au conservatoire de Thionville, conservatoire à rayonnement communal, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Donc, un conservatoire qui est quand même déjà assez développé, parce qu'on n'a pas loin de 800 élèves.
D'accord, ouais.
Donc c'est
pas mal, oui.
Si je ne me trompe pas, ça doit être le deuxième conservatoire du département.
Ouais.
On a le conservatoire à rayonnement régional. On a également l'école de musique de Forbach, qui, à mon avis, doit être à peu près au même niveau.
Ouais.
Après, il doit y avoir Thionville, Yutz, voilà, des grosses structures comme
Puis
ça.
Dans les associations, il y a l'association quand même de l'EMARI.
Oui, aussi, tout à fait. Donc, c'est parmi les grosses structures départementales, effectivement.
Ouais.
Et ce conservatoire, comme je le disais, il a la chance de bénéficier d'une très belle salle de concert, où on dispose également d'un très beau piano de concert, Steinway demi-queue qui est très régulièrement utilisé. Donc, on a des activités... très différentes. Hein. Donc les élèves peuvent bénéficier d'une programmation musicale propre au conservatoire, extérieur au conservatoire. Donc c'est une chance. Et la classe d'orgue se développe tranquillement.
Vous avez combien d'élèves là ?
À l'heure actuelle, j'en ai une petite vingtaine.
C'est déjà pas mal. Hein.
Voilà, donc j'espère
encore... Quelle répartition par niveau ? Il y a des jeunes, des anciens
On a de tous les niveaux, hein, puisqu'on se doit dans ce conservatoire-là d'accepter tous les publics qui se présentent. Alors on a des jeunes commençants, on a des adultes commençants, on a des recommençants aussi.
Ouais.
Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit l'évolution de chacun en fonction de l'âge. Et déjà, certaines personnalités musicales qui commencent à se confirmer. Voilà, donc c'est très intéressant.
Bon, puis dans l'enseignement, on peut revenir quand même 2-3 minutes sur le CDFO, donc le Centre diocésain de formation des organistes liturgiques. C'était quoi votre rôle ?
Alors, j'étais directeur adjoint.
Oui.
Et je m'occupais de beaucoup de scolarité, ainsi qu'avec Frédéric, on se répartissait en fait certains chapitres de la méthode d'orgue qu'on devait constituer. Donc,
oui.
On continue à écrire un petit peu chacun de notre côté, mais on espère quand même, d'ici quelques années, réussir à proposer quelque chose. Même si lui maintenant est à Dijon et moi à Thionville, on reste quand même assez étroitement en contact, donc on échange là-dessus, puis on aimerait quand même proposer quelque chose qui serait un petit peu le résultat du fruit de ce travail de quelques années qu'on a passé ensemble.
D'accord.
Dans cette structure.
Et alors, à côté de ça, vous donnez des concerts à droite, à gauche ?
Oui, oui, plus à droite qu'à gauche.
Plus à droite qu'à gauche, bon.
Voilà, bon, je suis pas, je me considère pas comme un concertiste à temps plein. Je fais pas 50 concerts par an. C'est une hygiène de vie que je n'ai pas, j'ai pas l'endurance pour ça, donc je fais les concerts quand on m'en propose, et c'est très bien comme ça, je suis très content de pouvoir découvrir des personnalités, des instruments, et là aussi c'est assez diversifié, puisque c'est autant à l'orgue qu'à l'harmonium.
On va venir à l'harmonium. Alors, je signale quand même que vous serez à Saint-Nicolas-de-Port le dimanche 31 août, si je ma mémoire est bonne.
C'est ça.
Voilà. On ne vous demande pas encore le programme, il n'est pas prêt.
J'y réfléchis. J'y réfléchis assidûment.
Quel est l'orgue le plus marquant sur lequel vous ayez joué ?
Oh, ils sont tous marquants. Ils sont tous marquants. Bon, il y a des instruments qui sont effectivement peut-être plus intéressants que d'autres, mais pour autant, je crois que l'expérience qu'on peut avoir fait que même un instrument un petit peu moins abouti ou peut-être moins célèbre peut avoir quand même un intérêt. Donc, il y a eu des très petits instruments que j'ai adoré jouer, parfois des très grands qui m'ont laissé un petit peu froid. Donc, non, il y a aussi les lieux qui font beaucoup. Il y a 2 ans, joué l'orgue de la cathédrale de Limoges, qui venait tout juste d'être restaurée, alors qu'il y a un grand Gonzalès de la grande période des années 60. Et c'est un instrument qui est très souple, en fait, qui a un caractère très particulier, parce que c'est un très gros instrument, mais avec un tout petit récit. Et par le truchement de l'électronique, on arrive à le faire sonner comme un très grand orgue avec un grand récit. Donc je me suis beaucoup amusé là-dessus, à chercher des combinaisons sonores. Puis le lieu de la cathédrale de Limoges est absolument fantastique, donc... J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Sinon, de manière totalement objective, je dirais que j'ai la chance de jouer quasiment quotidiennement le plus bel orgue du monde à Hayange.
Bien sûr, voilà. Justement, on va vous y entendre sur le plus bel orgue du monde.
Thank you.
C'était l'Allegro de la 4e symphonie de Louis Vierne sous les doigts de mon invité, Olivier Schmitt, sur son instrument, l'instrument le plus beau du monde, nous disait-il, l'orgue de l'église Saint-Côme, c'est ça ?
Saint-Martin.
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 Je ne sais pas pourquoi je l'appelais Saint-Côme, enfin bon. Bref, l'église Saint-Martin d'Ayange.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, on était avec les grands instruments. Maintenant, je vous propose de passer un petit peu à une de vos spécialités, le petit cousin de l'orgue que j'ai nommé l'harmonium. C'est quand même pas courant de voir des musiciens qui consacrent autant de temps et d'énergie à l'harmonium.
Parce que l'harmonium est un instrument qui a une très mauvaise réputation et qui n'est absolument pas justifié. C'est un instrument qui a une histoire assez exceptionnelle. Alors déjà, le terme d'harmonium, c'est pas le bon terme. Il faudrait utiliser orgue expressif, parce qu'harmonium,
d'accord,
c'est une marque, comme Frigidaire,
d'accord,
ou Renault, pour pas les citer. L'harmonium, c'est une marque qui a été déposée par brevet par Alexandre-François Debin en 1842, et qui est le fruit de recherches technologiques dont les origines remontent à la fin du XVIIIe siècle. On avait un certain Grenier qui voulait donner l'expression à l'orgue. C'était un petit peu la pierre philosophale de la musique, parce qu'on voulait donner au son tenu, mais varié en termes de timbre de l'orgue, la possibilité expressive du piano forte, qui était un instrument qui commençait un petit peu à émerger, ou du violon.
Ouais.
Donc on a cherché, et le principe qui a permis d'aboutir à ça, c'est l'anche libre. Alors l'anche libre, c'est pas une anche révolutionnaire, c'est une anche qui, contrairement à celle qu'on trouve dans les orgues, peut battre, on va dire, de manière isochrone, c'est-à-dire qu'elle peut vibrer de part et d'autre de son cadre, ce qui fait que, en fonction de l'amplitude de sa vibration, elle va sonner plus ou moins fort.
D'accord.
Après, selon la forme qu'on va lui donner et les résonateurs qu'on va lui attribuer, on va changer son timbre.
Mmh.
Et Debin, lui, invente un instrument qui est très compact, avec plusieurs timbres. En termes de hauteur, comme à l'orgue, avec des registres graves, des registres moyens, des registres aigus, et qui vont avoir des sonorités différentes, qui vont imiter par exemple le hautbois, d'autres la clarinette, d'autres la flûte, ainsi de suite.
Mmh.
Et le coup de génie qu'il a, il est double. C'est déjà que c'est l'instrumentiste lui-même qui produit son vent. Donc il peut régler lui-même la pression, en fonction de la pression, on va faire des nuances.
Mmh.
Et ensuite, comme l'instrument n'a qu'un clavier, il va diviser le clavier en deux parties, ce qui fait qu'on peut avoir une registration du côté de la main gauche et une autre registration du côté de la main droite. Et dès lors, c'est comme si on avait deux claviers.
D'accord.
Alors, donc ça, c'est on va dire la fondation de cet instrument. Après, il va être repris par d'autres facteurs. D'ailleurs, il y a des procès en contrefaçon qui étaient suivis comme un véritable feuilleton. C'était assez cocasse de suivre ça dans la presse, avec des injonctions, des gens qui se faisaient traîner au tribunal. Enfin voilà, il y a eu des amendes, des instruments confisqués, d'autres détruits. C'est assez intéressant. Avec par exemple la firme Alexandre Père et Fils, qui développe déjà un concept industriel de la fabrication des instruments. Donc ça, c'est dans les années 1800, fin 1840, début 1850. Et à partir de 1853, on a un certain Victor Mustel qui s'installe à Paris et qui a un tout petit atelier, mais qui produit des instruments d'une qualité exceptionnelle, qui sont recherchés par tous les musiciens.
Alors c'est quoi la qualité exceptionnelle d'un instrument ?
Alors, c'est y a un raffinement dans l'harmonisation, donc dans la manière de faire sonner les timbres, qui est inouï jusqu'alors. C'est vraiment des instruments extrêmement précieux. C'est un peu comme un Stradivarius par rapport à un instrument, un violon qu'on pourrait acheter sur Internet, par exemple.
Et tout est uniquement au niveau de la languette, de l'anche, ou alors
Alors, il y a un traitement par rapport à l'anche, mais il y a un traitement aussi par rapport au résonateur à l'intérieur de ce qu'on appelle le sommier, c'est-à-dire l'ensemble de boiseries avec des cavités qui sont creusées dedans pour faire résonner les anches. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait. Il y a un autre travail aussi sur la précision mécanique des instruments. Il va perfectionner des inventions que d'autres ont créées, par exemple un système de percussion, des petits marteaux qui vont frapper certaines anches pour les faire démarrer immédiatement. Il va reprendre aussi quelque chose qui est absolument génial, qui s'appelle la double expression. Donc, dans les harmoniums, on va dire simples, on fait l'expression avec les pieds.
Oui.
Et la double expression, elle permet de distribuer cette pression qu'on fait avec les pieds de manière complètement indépendante entre ce qui se fait à la main gauche ou à la main droite. Donc c'est comme si on avait une table de mixage où on pouvait faire ressortir plus quelque chose à un moment à la main gauche ou à la main droite, ce qui fait qu'il n'y a pas une partie qui fait juste l'accompagnement et l'autre la mélodie. Là, ça peut changer juste en manipulant des genouillères.
Oui, c'est ça, c'est des choses qui sont au niveau des genoux.
Voilà, on joue avec les mains, avec les pieds, avec les genoux.
C'est pire que l'orgue. Hein.
Oui, et puis même avec les talons. Il va mettre au point des mécanismes qu'on contrôle avec les talons et on essaie de jouer encore un petit peu avec sa tête.
Et ses oreilles.
Donc c'est un instrument, alors cet instrument développé par Mustell, ça s'appelle l'harmonium d'art, par opposition à l'harmonium, on va dire, de facture courante. C'est des instruments qui sont extrêmement précieux, ils sont extrêmement rares, il en a produit très peu.
Oui.
Par exemple, entre 1853 et 1931, on estime en tout qu'il y a eu à peu près 1800 harmoniums de construits chez Mustell, alors que sur la même période chez Alexandre, il y en a plus de 150 000.
Ah oui, d'accord, oui, oui.
Donc voilà, ce sont des instruments qui sont rares, qui sont précieux, encore en plus avec de très belles ébénisteries. Comme on est à Nancy, à partir de 1910, la firme Mustell fabriquait des instruments dont le buffet est dans le style Art Nouveau.
D'accord.
Voilà, ce qui était absolument inédit. Aucun autre facteur n'a fait ça à cette époque.
Et alors l'harmonium dans les églises ?
Ah, c'est un grand problème. C'est ce qui a fait sa mauvaise réputation. Alors, c'est un des avantages et un des inconvénients de l'instrument, c'est qu'il ne se désaccorde pas. On n'a pas besoin de souffleur pour faire le vent. On peut le déplacer où on veut,
oui.
À peu près. Hein, ça se déplace à deux personnes assez facilement. Et ça coûte moins cher. Donc forcément, ça avait tous les avantages pour plaire au clergé. Hein, sauf que l'harmonium, si on ne l'entretient pas, c'est comme... une voiture ou d'autres choses, si on n'entretient pas, ça finit par se détériorer. Et si encore en plus, on confie ça à une personne qui musicalement n'est pas capable d'en tirer le meilleur, c'est un petit peu dommage.
On va peut-être écouter un petit peu d'harmonium.
Thank you.
C'était le maître dans ses œuvres. Olivier Schmitt à l'harmonium, c'était quelle marque celui-là ?
C'est un Mustel.
C'est un Mustel, donc Olivier Schmitt à l'harmonium Mustel, dans une des nombreuses pièces qu'il a écrites pour cet instrument, qui était un boléro, extrait de ses 12 bibelots. Alors, c'est quoi le répertoire de l'harmonium ?
C'est un répertoire qui est extrêmement vaste. C'est un instrument qui a rencontré tout de suite un succès phénoménal, et c'était un instrument de salon. Il était associé dans les salons bourgeois au piano, ouais. Dont il venait compléter par la multiplicité de ses timbres, la dimension symphonique qu'on peut avoir au piano avec l'ambitus très large de 88 notes. En définitive, avec les registres, l'harmonium couvre quasiment l'ambitus du piano, mais avec des timbres différents. Donc quand on réunit les deux, ça permet déjà d'avoir des choses peut-être un petit peu moins dures à jouer, enfin ouais. Quoique. Et on a vraiment la dimension orchestrale, avec la richesse de timbres, on a l'amplitude expressive pour les deux instruments, qui est complétée encore par la diversité des timbres. Donc des compositeurs comme Saint-Saëns, par exemple, lui il a écrit d'emblée son opus 1, ses 3 pièces pour harmonium, et il a écrit 6 duos opus 8, qui sont de très très belles pièces, déjà très virtuoses, pour piano et harmonium. Après on a eu Vidor, il y a eu César Franck, il y a Guillemant qui a écrit aussi énormément, autant pour le duo piano-harmonium que pour l'harmonium seul. C'était un ami d'Alphonse Mustel, donc il a écrit du répertoire liturgique, mais il a écrit aussi du répertoire de salon, de la très 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 belle musique, qui est difficile et qui est d'autant plus difficile à jouer qu'il faut avoir l'instrument pour pouvoir le faire.
Oui.
Donc on a encore en France des gens comme Clément Loret, qui a énormément écrit. On a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus anecdotiques, je pense à Henri Toby par exemple, mais qui était un musicien, un élève de Lefebvre Velly. Lefebvre Velly a d'ailleurs écrit énormément pour les différents types d'harmonium. Et on a même de la musique de Mustel, du petit-fils de Victor Mustel, qui était patron, virtuose, inventeur, promoteur infatigable, qui a fait des tournées transcontinentales pour promouvoir cet instrument qui était associé à son nom de famille.
Et actuellement, à part vous ?
Oh, il y a plein d'harmoniumistes alors.
Non, mais qui écrivent.
Ah, qui écrivent. Il y a des gens qui écrivent, oui, si. Il y a des gens en Allemagne, il y a des gens en Belgique.
Et en France, il n'y en a pas ?
En France, il y en a certainement. On ne se connaît pas forcément tous, mais. Ah. Mais il y en a. Alors, je suis peut-être un des plus actifs, je ne sais pas, mais. Alors. Je m'amuse, je dirais, quand j'écris pour cet instrument. C'est de la musique que je ne considère pas comme sérieuse, mais que j'écris avec beaucoup de sérieux.
Très bien, très bien. Alors, dans les choses sérieuses, je vous propose d'écouter le scherzo, le début d'un scherzo d'Alexandre Guillemant, toujours sous les doigts de mon invité Olivier Schmitt. Thank you. on sent bien qu'on n'est pas au bout du scherzo, mais vous irez écouter sur Internet l'intégralité de cette pièce interprétée par Olivier Schmitt, de la musique d'Alexandre Guilmant.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Olivier, on entend des choses un petit peu curieuses, des petites clochettes.
Oui, c'est des choses un petit peu curieuses parce que c'est un harmonium d'art Mustel, mais un harmonium d'art qui est pourvu d'un célestat. Le célestat, d'accord, c'est une autre invention de Mustel. C'est un instrument qu'on connaît dans le ballet de Casse-Noisette de Tchaïkovski.
D'accord, hein,
c'est l'instrument qu'on entend dans la danse de la fée dragée.
Uh-huh.
Et que Tchaïkovski avait fait importer de Paris dans le plus grand secret pour être sûr qu'aucun musicien ne l'utiliserait avant lui. Hein, donc c'est un instrument après qui s'est beaucoup démocratisé dans l'orchestre. Hein.
Ouais,
on
ouais.
pense à Bartok avec musique pour corde, percussion et célestat. Bien d'autres après. Et donc, en plus de proposer cet instrument comme instrument d'orchestre, ils ont décidé de l'associer à l'harmonium. Donc c'est un instrument à deux claviers, on peut jouer les deux instruments séparément, ou comme ici, réunis par un système d'accouplement, comme dans les orgues à tuyaux.
D'accord. Alors, on va peut-être parler quelques instants du Festival d'harmonium français, auquel vous participez régulièrement.
Oui, alors l'harmonium français, c'est une association qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années à peu près, qui est installée à Limoges, et qui lutte ardemment pour redonner tout son éclat à l'instrument en faisant redécouvrir sa facture ou ses factures, son répertoire, et qui le met en avant par des récitals. Ils ont
ouais.
fait aussi des enregistrements.
Mmh.
Et bien souvent, l'instrument n'est pas présenté seul. Il est en formation de musique de chambre, associé au piano, mais aussi avec les cordes, avec des voix. Et quand on est dans cette grande formation, là, on arrive à avoir un répertoire qui sonne vraiment orchestre. Alors, on peut faire des extraits d'opéra, des extraits de musique sacrée, c'est assez fantastique. Et on a inauguré l'année dernière un festival au château de Pompadour,
oui.
Qui est reconduit l'année qui vient. Et l'année d'après, on quittera le château pour s'installer au casino de Pompadour, qui est en train
oui.
de sortir de terre. Donc, on va passer des canassons aux cartes à jouer.
Bon, et puis alors, dans les autres activités, il y a tout ce que vous avez fait autour de Théodore Gouvy.
Oui, Théodore Gouvy, compositeur mosellan, né à Gauffontaine, à quelques kilomètres de Sarrebruck, quelques années seulement après que ce territoire soit repassé sous la coupe de l'Allemagne.
Mmh.
Et donc, ce compositeur que certains qualifient de Mendelssohn français, hein, a écrit énormément. Il était très connu. Hein, de son vivant, parce que Berlioz lui-même avait remarqué sa musique et avait dit qu'il ne comprenait pas comment quelqu'un de l'envergure de Théodore Gouvy n'était pas plus connu en France et à Paris, alors qu'on était assourdi par le bourdonnement de compositeurs vraiment secondaires.
D'accord.
Donc il a écrit à peu près 300 partitions, hein, et c'est extrêmement riche, puisque on compte 25 grandes partitions pour orchestre, dont 9 symphonies,
ah oui.
rien que ça.
Mmh.
Beaucoup de musique de chambre. Il y a par exemple 11 quatuors à cordes.
Ah
il y a
oui.
peu de compositeurs français qui ont écrit autant que ça. Il y a un mmh. énorme répertoire pour piano, des mélodies, des leaders, alors autant en français qu'en allemand, parce qu'il était parfaitement bilingue, de la musique sacrée. Hein, ce qui a permis de le sortir de l'oubli, c'était la redécouverte de son Requiem.
Oui.
qui a été enregistré très rapidement ensuite par l'Orchestre National de Lorraine à l'époque, maintenant on dit Orchestre National de Metz, ou encore son Stabat Mater. Récemment, il y a eu aussi un travail pour redonner ses opéras, puisqu'il a écrit un grand opéra dans le style français qui s'appelle Le Cid, un autre sur Matteo Falcone, et ensuite des cantates dramatiques. Donc, quelqu'un d'extrêmement prolixe, hein, prolifique, et qui a fait l'objet d'un travail soutenu par le conseil départemental de Moselle avec l'appui du Palazzetto Bruzzane. Donc j'ai participé à l'établissement d'un nouveau catalogue qui revoyait un petit peu la classification qui avait été établie déjà très bien par René Auclair. Et j'ai également édité un certain nombre de partitions pour les besoins de différents festivals qui avaient lieu à cette époque-là. C'était pour le bicentenaire, donc en 2019.
Ouais.
Et j'ai réalisé, pas tout seul, j'avais une assistante qui a fait aussi une grosse partie du travail, la numérisation de l'ensemble du fonds musical Théodore Gouvy, donc c'est-à-dire à peu près 25 000 scans, des partitions, des livrets et d'autres joyeusetés, donc un travail assez fastidieux, mais qui est tout à fait intéressant parce qu'on peut accéder à tout. Ben aujourd'hui, voilà, aux archives départementales, sans avoir besoin de déplacer les documents originaux.
Eh bien écoutez, on va terminer l'émission en écoutant le scherzo de la première symphonie de Théodore Gouvy. Nous sommes en train d'écouter le scherzo de la première symphonie de Théodore Gouvy. Olivier Schmitt, mon invité de ce soir, merci d'avoir passé cette heure. Il y avait encore plein d'autres choses à dire sur l'harmonium, sur Gouvy, sur des tas de choses, mais vous reviendrez.
Avec plaisir.
Voilà. Merci à Joris pour la technique. Je rappelle le concert de l'ALMC, c'est le lundi 24 février à 20h, salle Poirel. Et puis j'annonce un petit peu en avance déjà le prochain concert de l'ensemble Stanislas, le 3 mai, Conservatoire. Dans un programme avec Catherine Chauffard, Johan Kos, et Franck Nathan autour de Wenceslas Novak, Dimitri Shostakovich et Clara Schumann. Voilà, merci à tous. Bonne semaine à l'écoute des programmes de RCN et à mardi prochain.